Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e émission de la Ligue des joueurs ordinaires. Nous sommes début novembre, il fait froid, l'hiver arrive comme disait le vieux Stark avant de perdre la tête. Et nous allons parler dans la Ligue des joueurs ordinaires de quoi ? Eh ben de jeux de plateau, de jeux de rôle, du monde ludique qui nous entoure et qui nous fait bien kiffer malgré tout. Je ne suis pas tout seul pour présenter cette émission, bien évidemment. Il y a autour de moi plein de chroniqueurs et de chroniqueuses super sympas et super charmantes. Bonsoir Floette, comment vas-tu ?
Bonsoir, très bien.
Qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers temps ?
Écoute, je reviens du bout du monde juste pour cet enregistrement, c'est incroyable.
Et tu repars juste après, putain, c'est sympa. Elle a un avion dans une heure, elle repart tout de suite après. On a aussi Christophe qui est là. Bonsoir Christophe, comment vas-tu ?
Bonsoir Zef, ça va très bien, merci.
Qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers temps ? Tu as testé de nouveaux jeux, de nouvelles perles ?
J'ai essayé plein de nouveaux jeux de plateau qui sont très très bons.
Et tu vas nous en parler ?
Et je vais vous en parler au moins de deux ce soir.
On va se limiter à deux, c'est déjà pas mal. Bonsoir Oise.
Salut Zef.
Comment vas-tu ?
Très bien, et toi ?
Quoi de beau ?
Un mois western, un mois rempli de jeux, un bilan d'année ludique très chargé, et voilà.
Je crois qu'on va faire ça, c'est une bonne idée, ça va faire un gros bilan en mois de décembre de l'année qu'on vient de passer. À la technique avec nous, je le présente là, vas-y, on va l'oublier. Non, allez, il y a Ketrus qui est là, mais on ne nous entend pas. Tu peux parler dans le vent ou pas ?
Bonjour Zef.
Ça, il est au fond, là, on lui jette des cailloux pour qu'il fasse ce genre. Et ce n'est pas tout, autour de cette table, nous avons un invité vraiment, vraiment, vraiment spécial qu'on a dû solliciter plusieurs fois pour qu'il vienne, le payer, aller le chercher, lui donner des billards, des taxis, ainsi de suite. Enfin, bref, ça a été une vraie galère. Olivier, qui est là, qui est le gros EGN master d'un GN qui s'appelle le Black Hill, et il va nous en parler un peu plus tard. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ?
Bonsoir, ça va bien.
Ça va bien, voilà, c'est ce qu'on attendait. Au sommaire aujourd'hui, nous allons dans un premier temps passer sur les coups de cœur et coups de gueule de tout le monde ici. Même moi, j'en ai rien, c'est une première. Floette, Gomelon et Oise vont nous parler donc de ce qui s'est passé ces derniers temps, pendant ce mois. On passera ensuite sur une chronique jeu de plateau avec Christophe qui va nous parler de Kanagawa. Je le dis bien, ça va ?
C'est vrai, parfaitement.
Parfait, merci. Ensuite, on passera avec Floette qui va nous parler d'un demi-méta jeu de plateau sur Zombicide, une version des règles un peu spéciale qui va faire kiffer des joueurs, je pense. Et Oise prendra ensuite la main puisqu'il va nous présenter le GN Western Black Hill avec Olivier en lui posant des questions. Puis on pourra tous interagir avec cette belle personne qui est en bout de table et qui nous regarde du coin de l'œil avec ses belles lunettes. Et voilà, on est parti ?
On y va.
Et bien voilà, go. On passe pour les coups de cœur, coups de gueule. Qui va commencer ?
Bon, bah allez, je commence.
Allez, vas-y.
Écoutez, moi, il y a tout juste un mois, j'ai découvert complètement par hasard un jeu japonais sorti en 2014 et qui s'appelle Time Bomb. J'ai adoré et j'ai déjà plus d'une vingtaine de parties au compteur, alors que je ne l'ai même pas dans ma bibliothèque, hein, c'est vous dire. Time Bomb, c'est un party game de 4 à 6 joueurs, une association entre le bluff de Skull et les équipes à rôle caché de The Resistance, hein, pour vous donner un peu une petite idée. Je vous explique le principe. Une bombe est sur le point d'exploser. Nous sommes des démineurs et il faut la désamorcer en coupant les bons fils représentés par des cartes déminage. Alors, il y a 5 cartes par joueur au départ. On les distribue. Chaque joueur regarde ses cartes secrètement, les remélange et les pose devant lui, face cachée. Chacun connaît donc son propre jeu, mais ne sait pas où sont les cartes. C'est là que les discussions commencent. Le premier joueur qui a une pince, il va aller essayer de trouver où sont les fils à couper. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans les cartes, il y a une bombe. Et ça, on sait ou pas qui l'a. La pince, donc après, on discute tous ensemble. Chacun essaye d'amener la pince vers lui parce que pour couper le bon fil. Et puis quand le fil il est coupé, on regarde ce que c'est. Est-ce que c'est un bon fil ? Est-ce que c'est pas un fil neutre ? On s'en fout. C'est celui chez qui on a coupé qui va ensuite aller chercher chez les autres. Donc là, ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des démineurs autour de la table.
Ah, il y a un traître. Hein.
Ouais,
je ne voyais pas la partie.
Il y a aussi des terroristes, ouais, dont l'objectif, il est non seulement d'empêcher que la bombe soit déminée, mais en plus de faire dévoiler la carte explosion pour faire tout péter. Donc les rôles sont cachés, bien entendu, et donnés en début de partie. Et le pompon, c'est que les terroristes ne se connaissent pas entre eux.
D'accord, donc c'est vraiment du vrai bluff de bout en bout. C'est pas un peu chiant d'ailleurs ?
Ah bah non, parce que là vous imaginez le niveau de fourberie que ce jeu peut atteindre. Hein. La partie elle est gagnée par les démineurs si tous les fils de désamorçage sont coupés et les terroristes gagnent si la bombe explose. Donc une manche se termine quand autant de cartes qu'il y a de joueurs ont été découpées. D'accord. Et si à la fin de la quatrième manche la bombe n'a pas été déminée, ça pète. Donc, vous me connaissez, un jeu de haut niveau de fourberie et de bluff, je ne peux qu'aimer.
Ouais, tu m'étonnes. Hein, donc... Forcément, un jeu, Un jeu à pute, en fait.
C'est oui. De la bombe.
Ben voilà, c'est ça, oh, c'est complètement jouissif.
Je précise, je détends l'atmosphère parce que je vois avec Olivier ses grands yeux. Oui, tu es tombé dans un podcast de connaisseurs qui parle à des gens qui n'y comprennent rien, effectivement. Non, donc on va renommer cette chronique la chronique
pourquoi,
de Gomelon.
Pourquoi, hein. Pourquoi non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Tout le monde s'y connaît ici.
Et si j'en parle aujourd'hui, moi, c'est tout simplement parce que Yellow va l'éditer en français. Et il passe de 6 à 8 joueurs avec 3 terroristes. Et en plus, alors, comme les terroristes et les swaps, c'est pas vraiment le moment... Hein, c'est pas le thème le plus fun en ce moment. Donc ils l'ont adapté en Sherlock Holmes et contre Moriarty. Hein, c'est la Tour de Londres, enfin c'est Big Ben qu'on fait sauter. Et ça sort fin novembre. Donc moi je vous le dis, d'ici à la fin de l'année, on n'a pas fini de déminer.
Ouais. Voilà, c'était la phrase choc de la soirée. Ouais. Merci Gomelon. On a déjà une terme de tarif sur ce jeu-là ou pas du tout?
Non, c'est les petits jeux de Yellow, donc à mon avis ça va être du 15 euros.
Oui, c'est la collection petits jeux. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette collection chez Yellow, mais en général elle est vachement bien foutue. Ouais.
D'accord, ok, bah, on en reparlera, j'imagine, quand on aura tous testé. Waz, bah, tiens, garde la parole. Oui. De quoi tu voulais parler?
Puisque c'est mon moi western, j'ai décidé de parler d'un petit jeu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est édité chez Gamelink Games, qui s'appelle The Tiny Epic Western. Tiny Epic, c'est une collection de jeux édité par Gamelink Games. Et qu'est-ce que c'est? C'est un grand jeu de société qu'on peut jouer à plusieurs dans une petite boîte. Voilà, tout simplement. Celui-là est sur le thème western. Le principe, c'est du cumul de points de victoire par placement d'ouvriers. C'est un jeu qui a une petite particularité. Lorsque l'on résout différentes actions, différents duels, différentes confrontations, on le fait avec des mains de poker. Donc voilà, vous avez dans une petite boîte que vous pouvez emmener partout, un jeu qui, certes, n'est pas forcément inédit sur le principe, mais qui est bien foutu, qui est bien léché, qui est bien terminé, qui fait plutôt plaisir. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur.
D'accord, mais quand tu dis c'est un grand jeu comme une petite boîte, c'est comme les Monopoly version miniature, ou c'est un jeu qui existe en grand et qu'on a mis en petit, ou c'est le jeu comme ça?
C'est un jeu qui a la prétention d'être un jeu qui peut durer entre 30 minutes et une heure, qui fait vraiment appel à des mécanismes de compétitifs qui sont plutôt bien foutus.
D'accord.
Quand on parle de placement d'ouvriers, en général, on parle de jeu à l'allemande qui a assez de profondeur. Et c'est le cas ici, et vous avez dans la même gamme chez Gamelink Games, donc vous pouvez le trouver sur Internet, sur Amazon ou même pourquoi pas sur Kickstarter, vous avez les mêmes thématiques qui s'appliquent aussi avec des mécanismes un petit peu différents, à de la science-fiction, à du médiéval, etc. Ils ont toute une collection qui est vachement bien foutue, et je vois Kétrus qui fait oui de la tête parce que je ne suis pas le seul à l'avoir backé, et c'est plutôt un bon produit.
D'accord, Kétrus accepte, enfin... Kétrus approved. Ok, bah merci beaucoup. On a un prix là aussi ou c'est juste pour l'instant
Alors ça vaut, suivant là où vous l'achetez, une trentaine d'euros quand même.
Hein. Ah oui, quand même, une petite boîte, c'est minuscule de 15 sur 10, mais effectivement, c'est pas donné. Floette, reprends la main.
Oui, alors sur ma plage ensoleillée, j'ai quand même joué un petit peu aussi. Et j'ai découvert un petit jeu très sympa qui date pourtant de 2003, mais qui a été réédité plusieurs fois parce que justement, il avait quand même pas mal de succès. Ça s'appelle Ricochet Robot d'Alex Randolph, édité chez Rio Grande Games. C'est un jeu de réflexion très rythmé, c'est un genre de casse-tête collectif mais compétitif, avec une mécanique simple et efficace. En gros, on a un tableau avec des cases, des murs, des cibles, quatre robots dessus. Le but, c'est d'amener un robot sur une cible qu'on a tirée au hasard en un minimum de déplacement, avec des règles de déplacement basiques. Orthogonalement, et le robot avance jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle, soit un autre robot, soit un mur. Et on ne peut les déplacer que comme ça. Donc chaque joueur réfléchit simultanément sans rien toucher pour trouver le chemin le plus court. Quand il l'a trouvé, il annonce le nombre de coups et un sablier est lancé. Les autres joueurs doivent proposer moins ou autant de coups et la meilleure solution proposée remportera un point.
Genre c'est une espèce de chiffre et des lettres, mais version robot avec des coups en fait.
Pas vraiment, non.
Je sais pas pourquoi, c'est l'image qui est
moderne,
en tête. En
tu
fait.
Fais très moderne quand tu dis
mais
ça,
non.
Ça me plaît beaucoup.
Mais oui, c'est ça.
Désolé.
Non, mais voilà, c'est du casse-tête, quoi. C'est un casse-tête qui est vraiment unique à chaque fois, parce que donc au niveau du plateau, c'est amovible. Il y a quatre tuiles recto verso, donc on peut avoir déjà rien que 96 plateaux différents. On dispose aléatoirement les robots et les cibles, donc à chaque fois c'est nouveau. Mais on peut quand même développer des stratégies à force d'enchaîner les parties sur un même plateau. Donc globalement, c'est simple à mettre en œuvre. On peut intégrer et sortir d'une partie facilement. Le nombre de joueurs, c'est autant qu'il y a de place autour de la table. C'est quand même assez difficile parce que ça demande pas mal de flexibilité mentale, tout ça. Mais les règles sont quand même faites pour que chacun ait ses chances. Par exemple, si deux joueurs ont le même résultat, c'est celui qui a le moins de jetons qui remporte un point.
D'accord, ok.
Et donc voilà, certains vont jouer la pression de la montre en annonçant tout de suite un certain nombre de coups, d'autres vont être plus discrets pour optimiser un peu les choses et faire une annonce tardive. Donc tout est possible. Et donc, dans l'ensemble, c'est un jeu auquel il faut jouer peu de temps parce qu'on fatigue vite, c'est assez intense. Ça peut être joué en toutes circonstances, même sur la plage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. C'est facile à transporter, rapide à installer. Mais globalement, soit on adore, soit on déteste. Donc okay. À tester.
D'accord. T'as un tarif ? Rappelle-moi l'éditeur, tu m'as dit
Rio Grande Games.
D'accord, ok, on regarde
mais
ça.
J'ai pas le
Moi, si, je vais finir sur un coup de cœur, parce que j'ai découvert ça hier, c'est un de mes collègues qui m'a fait découvrir ça, en disant qu'il y a un jeu de cartes de Square Enix qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et oui, moi, je rejoins le jeu
vidéo. Final Fantasy.
De Final Fantasy, effectivement. C'est une espèce de crossover magic Final Fantasy avec du... Voilà, on retrouve Final Fantasy 7, Final Fantasy 13, je crois, qui est sorti. Il y a un troisième Final Fantasy qui est dedans, mais j'ai oublié lequel. Bref, on sort des héros, on tape les cartes pour avoir de la mana, on sort et on va taper les héros adverses pour gagner. Ça me fait juste très envie parce que le design des cartes sont vraiment hallucinantes en fait, parce qu'on reprend bien évidemment les fanarts qu'il y a eu, enfin les fanarts, les trucs officiels, mais les versions dessin, les versions jeu, bon, ça tue au niveau visuel. Les cartes sont d'une qualité absolument génialissime. Parce que le dos de la carte est un petit peu granulé en fait, c'est super, hein, ouais, c'est super agréable au toucher. Donc voilà, je vais plonger dedans comme une merde et je vais y jouer, je pense, très 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 longtemps.
J'aimerais quand même être dans la tête du mec au marketing qui a pensé sortir un jeu de cartes comme ça aujourd'hui avec des mécanismes qui sont des ressuscités.
Le jeu existe depuis plus de 2 ans, je crois, au Japon. Voilà. Et il est venu en France que assez tardivement finalement.
C'est quand même culotté. Je pense que c'est misé sur la qualité, mais je serais curieux qu'on fasse un retour là-dessus dans quelques temps.
Ah, mais je pense que j'en ferai un, je ferai une chronique la prochaine fois, mais c'est du fanboyisme de ouf. Mais ça tue au moins au niveau visuel, et évidemment, avec tous les Final Fantasy qu'il y a, ils peuvent se permettre de faire des extensions à foison. Voilà, c'est tout pour Olivier. T'auras un coup de cœur, un coup de gueule à passer, quelque chose ?
Non, rien de particulier.
Rien de particulier, c'est incroyable ça, les invités. On les prévient pas assez tôt en fait, en disant vous devez préparer des trucs et tout. Déjà, ils donnent de leur personne, tout ça. Ok, on va passer au gros morceau de l'émission. Et on va passer avec Christophe, encore une fois.
C'est moi le gros ?
Oui, c'est toi le plus gros de la table, je crois. Oui, c'est ça, en fait. Tu vas nous parler de quoi, Christophe ?
Je vais vous parler de Kanagawa. Voilà. Et afin d'éveiller votre attention pour le début de cette chronique, je vais vous donner tout de suite le nom des auteurs que vous connaissez bien, car il s'agit de Bruno Catala et de Charles Chevalier.
Je crois que c'est les deux plus gros auteurs en France.
Hein, et oui, il ne s'agit
pas.
Les plus prolifiques, oui. Et certainement les plus bankable. Enfin, si on peut appeler ça comme ça.
Bankable. Ouais. J'aime bien le mot bankable. Genre,
c'est plateau, une réalité. Enfin, ils font vendre parce qu'ils font des produits qui régulièrement sont de qualité. Voilà.
Je suis d'accord.
Et oui, parce qu'il ne s'agit plus de plonger dans les profondeurs des océans. On revient sur Terre et on remonte le temps. Le célèbre duo d'Abyss nous transporte cette fois au pays du soleil levant. Dans Kanagawa, pas de combat, de monstres terrifiants ou de zombies à éliminer, pas non plus de cubes en bois figurant de l'or, des carottes ou des ouvriers. Hein. Le matériel est sobre et dépouillé, il s'agit de nous imprégner de la beauté des estampes. Car nous sommes en 1840 dans la grande baie de Tokyo et nous entrons à l'école des disciples du grand maître du dessin, Katsushika Hokusai, un artiste qui, pour la petite histoire, a réellement existé et dont l'œuvre a influencé des peintres majeurs comme Gauguin, Van Gogh ou Monet. Car c'est sous l'enseignement de celui qu'on surnommait « vieux fou du dessin » que vous allez acquérir des compétences picturales, développer votre savoir-faire et vous équiper en pinceau. Parce que le matériel, il faut en avoir aussi. Donc l'objectif final est de peindre l'œuvre de votre vie, une estampe la plus belle possible et surtout sous le signe de l'harmonie. Bon, alors jusqu'à présent, vous n'êtes pas plus avancé que ça, hein, pour vous faire une idée de la mécanique, je sais. Alors sachez que le matériel se réduit à quelques pions, un petit tapis faisant penser à un tatami et à un paquet de cartes carrées. Chacune de ces cartes, il y en a 72, a 2 usages possibles. Soit on l'utilise pour développer son atelier, soit on intègre son illustration à notre estampe. Donc, alors, je vais vous expliquer du côté atelier. La carte va vous permettre d'accéder à une des 4 familles de paysages, ou obtenir plus de pinceaux. Hein. Enfin, voilà, on commence avec 2 pinceaux, donc on ne peut pas peindre plus de 2 morceaux par tour au départ. Bref, l'atelier, ça vous donne plus de possibilités pour développer au cours de la partie votre fresque. Si par contre vous utilisez la carte de son côté illustration, ça implique déjà que vous avez la compétence dans votre atelier, et surtout vous développez votre estampe en recherchant la fameuse harmonie. Car il ne s'agit pas de mettre bout à bout des morceaux de peinture comme je te pousse. Hein. Votre sens artistique vous incline à associer entre eux les différents éléments apparaissant sur votre illustration. Ainsi, si vous allez certainement essayer de faire la plus grande suite de cartes représentant une même saison, hein, elle peut figurer le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Mais il n'y a pas que les saisons, chaque famille de paysages est associée à un élément que vous allez tenter de représenter. Cela peut faire apparaître une forêt d'arbres, des bâtiments ou des personnages différents, voire arriver à associer certains animaux spécifiques. Chacune de ces associations va être reconnue par le maître comme la preuve d'un grand talent. Et vous obtiendrez alors des diplômes démontrant votre grand sens de l'harmonie. Par exemple, si vous, avez le premier, si vous êtes le premier à revendiquer le diplôme correspondant à la représentation de trois personnages différents, il rapporte 8 points d'harmonie. Donc là, vous l'avez compris, le but du jeu est d'obtenir le plus de points d'harmonie. Hein, ça nous change des points de prestige.
Ok, ça je veux bien, mais du coup, les cartes, tu les obtiens comment ?
C'est là que le petit tatami entre en jeu et que l'aspect fourbe arrive. Vous vous rappelez que dans Abyss, le système de stop ou encore pour récupérer les cartes alliées qui permettent...
Non, voilà. Dans l'extension, ouais.
Voilà. Non, même au départ, hein, tu récupères des alliés, fais un stop ou encore pour récupérer des alliés qui vont ensuite te permettre plus tard d'acheter des seigneurs. Donc, sans être identique, l'esprit n'est pas trop loin puisqu'il s'agit cette fois de récupérer une colonne de cartes. À chaque début de manche, on aligne sur le petit tatami une seule carte par colonne. Il y a autant de colonnes que de joueurs. À partir du premier joueur, chacun décide soit de récupérer une carte, soit de passer. S'il reste des cartes à la fin du tour de table, on rajoute une carte dans chaque colonne non prise par les joueurs.
Ouais, d'accord, ça reste du classique.
Et les nouveaux joueurs, donc les joueurs encore actifs, ayant passé le tour précédent, décident à nouveau de récupérer une colonne ou de passer. On ajoute enfin une troisième carte dans les colonnes restantes et on fait un dernier tour de table entre les joueurs encore en jeu. Donc vous voyez le dilemme. Hein. D'un côté, il y a cette carte-là, toute seule, qui vous intéresse, mais en même temps, si vous la prenez, vous perdez d'autres occasions pour développer votre atelier ou d'obtenir un diplôme. En même temps, si vous êtes le dernier à choisir, il y a des chances que la colonne qui vous intéresse vous passe sous le nez par la faute d'un malfaisant. Hein. Donc, d'ailleurs, quand aucune colonne ne vous intéresse, autant piquer celle qui combotte avec le magnifique fresque du prétentieux qui joue après vous. Donc, bref, Kanakawa est un excellent jeu d'une durée moyenne de 45 minutes. Pouvant se jouer jusqu'à 4 joueurs, aux règles simples, mais avec ce qu'il faut de richesse pour faire travailler les neurones, et surtout, il est très, très, très beau et complètement immersif. Grâce aux superbes illustrations de l'illustratrice, hein, Jade Mosh, on se prend véritablement à entrer dans la peau d'un disciple du maître de la peinture japonaise du 19e siècle, au point même que lorsque, d'une récente partie, quelqu'un qui passait à connaître notre table a cru qu'on jouait à un jeu japonais. Alors que là, on est dans le 100% français.
Oui. Justement, en fait, en regardant les illustrations, parce que vous ne les verrez pas à la radio, mais pour le coup, c'est vraiment une Française qui a fait ça, parce que c'est vraiment inspiré, pour le coup, au niveau des couleurs et du design. Je voyais faire des yeux dans tous les sens.
Je pense que l'ami Christophe ici est un petit peu partisan. Il a raison, c'est sans doute quelque chose de super. Mais moi, à première vue, alors je suis un mauvais élève, j'ai pas testé le jeu. Mais je vais ramener ma fraise sur un truc qu'un mec qui n'a pas testé le jeu peut faire. C'est qu'en voyant les cartes, le design des cartes et les illustrations, c'est quand même pas hyper, hyper fouillé, quoi.
Ça paraît simple, c'est vrai.
Ça paraît simple, mais justement, c'est aussi le style graphique de l'estampe japonaise. Mmh. On est vraiment, vraiment dans l'univers, on est vraiment immergé dans cette œuvre-là.
Ouais, en fait, finalement, les cartes, à part le dessin en tant que tel et les icônes qu'ils représentent, il n'y a pas besoin de plus que ça sur les cartes. Pour jouer, pour comprendre le gameplay, en fait.
Pas. Tout fonctionne avec juste des illustrations, pas besoin, il n'y a pas de texte. Tout fonctionne uniquement par rapport à ce qui est indiqué sur les cartes et c'est extrêmement bien foutu. Enfin, il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit. On comprend tout de suite de quoi il s'agit.
C'est la marque de fabrique Catala Chevalier. Enfin, vraiment, dans tout leur jeu, c'est ce qu'ont fait certainement des auteurs qui sont vraiment balèzes ou des concepteurs qui sont vraiment balèzes et qui sont capables de faire avec le design du jeu des éléments qui sont super compréhensifs et simples à prendre en main sans avoir besoin de mettre des tartines et des tartines de règles sur les cartes.
Oui, c'est quand même dingue parce que, enfin, à contrario d'Abyss qui avait des pavés des cartes avec un pavé de texte dessus, c'est quand même fou. Olivier, tu veux réagir ?
Ouais, pour le coup, je suis un peu déçu parce que dans mon esprit d'occidental, on parlait des estampes japonaises et je pensais à un jeu beaucoup plus axé érotique. Quand je vois les dessins qu'il y a là-dessus.
Alors, là, tu vois, regarde, je te sors une geisha. Bon, elle n'est pas ultra sexy, je t'avoue. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour le coup, c'est vraiment... Enfin, même au niveau des couleurs, c'est complètement épuré, en fait. On a vraiment du
simplicité. À première vue, pour ceux qui nous écoutent, j'ai l'impression que ça fait un tantinet léger. Alors, est-ce que la façon dont on joue au jeu et la partie compensent un petit peu cette impression-là ? Cette première impression qui est bonne ou mauvaise, je ne sais pas.
Justement, le jeu ne repose pas sur le matériel. Le jeu joue sur la mécanique. On est sur un jeu qui est familial plus. Et effectivement, le matériel est très simple. On est vraiment dans l'épure absolue. D'ailleurs, la boîte, elle n'est pas grande par rapport aux jeux qu'on voit en ce moment. Du coup, on a une boîte qui est de taille moyenne, avec un prix qui, justement, est très abordable. Hein. On est à 20 euros, la boîte. Et on est sur un jeu qui dure 45 minutes et qui a effectivement une richesse, une profondeur que vous découvrez en faisant les parties au fur et à mesure.
D'accord. Floette, ça te parle, ça te donne envie ?
Oui, tout à fait.
J'ai une bêtise ou...
Non, pas du tout. Pardon. Non, je pense qu'effectivement, ce n'est pas des couleurs et des graphismes auxquels on est habitué, mais je pense que c'est tout à fait dans l'esprit, justement. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Et après, oui, ça a l'air intéressant à tester.
On a des éléments sur le succès de ce jeu ou pas du tout?
Les enfants, ils viennent sortir, il est sorti pour SN. Donc ça fait 15 jours.
D'accord, mais les boîtes se sont-elles arrachées?
SN, voilà.
Oui, genre, ça clairement, SN, ça s'est vendu comme des petits pains. Déjà, dans les boutiques aussi, ça se vend comme des petits pains. Déjà, nous, à Boîte à Chimères, vous en avez déjà au moins 4 ou 5 qui l'ont déjà, même pas 15 jours après sa sortie.
Ah,
d'accord,
oui.
Ouais, ça reste quand même un gros truc. Mais en même temps, enfin, c'est ce que je disais, en fait, Catala, Chevalier, ça reste voilà, c'est le jeu qui fait vendre avant tout. Sans dire que c'est un mauvais jeu, parce que moi en fait tu me l'as vendu comme un rêve, hein, le truc, genre le côté sans japonais. Ça me rappelle un vieux perso que j'avais dans les L5R qui faisait qui se battait avec un pinceau, qui voulait juste faire des beaux dessins. Donc voilà, ok, merci beaucoup. Tu peux rappeler juste le nom, enfin l'éditeur, le nom et le prix?
Donc c'est Kanagawa chez Yellow, et donc les auteurs, et le prix c'est autour, je crois que c'est 20 euros à peu près.
D'accord, donc vraiment un jeu familial, très abordable. Pur et dur et abordable. Ok, merci beaucoup. On va passer à la deuxième chronique, la métachronique JDP, on va dire, de Floette. Alors, tu vas me parler d'un jeu qu'on connaît tous, qu'on n'aime pas du tout parce que c'est pas un bon jeu.
Qu'on n'aime pas du tout.
Ok, je troll. C'est moi qui troll sur ce coup-là. Oui, moi, Zombicide, je suis pas très fan. Mais bon. Bah, vas-y, parle-nous de Zombicide. Mais pourquoi tu veux me parler de Zombicide? On connaît, en fait, déjà.
Alors, parce qu'on ne connaît pas tout, en fait. Et pour le coup, c'est beaucoup moins poétique que le jeu que nous décrivait Gomelon, évidemment, puisque donc on va parler zombies, alors qu'en plus, la polémique sur la nouvelle saison de The Walking Dead fait rage en ce moment. Mais
une polémique
on veut...
dessus, c'est moi.
Oui.
Ouais, parce qu'il y a une polémique depuis la première saison, parce qu'ils auraient dû arrêter, en fait.
Peut-être. Bref, mais je voulais surtout saluer en fait la créativité et le talent des joueurs passionnés qui ont parfois plein de bonnes idées pour améliorer justement le potentiel ludique de certains jeux et qui les partagent avec toute la communauté de joueurs. Et c'est le cas de l'Orque Bourré, pour son pseudonyme, qui a retenu toute mon attention donc, depuis quelques temps maintenant avec sa création originale qu'il a appelée The Walking Dead Zone Icid. Le bien nommé, si je puis dire. Je vais vous expliquer pourquoi il l'a appelé comme ça. Il s'agit en fait d'un ensemble de règles permettant donc de jouer la survie entre différents groupes de survivants en reprenant des éléments à la fois de la série The Walking Dead, donc pour ceux qui ne connaissent pas, série télévisée basée sur un comic book. Chaque joueur commence en fait avec un seul et unique survivant, comme le personnage au début de la série, et devra ensuite constituer son groupe au fil des parties. Ça s'inspire aussi du jeu Dead Zone, c'est un jeu de stratégie basé sur le thème de l'apocalypse zombie. Et comme survivre est difficile après l'apocalypse, chaque joueur aura à gérer des ressources à la disposition de son groupe, que ce soit des matériaux, des vivres, de l'armement. Et le tout sur la base du jeu de plateau Zombicide. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Zombicide c'est un jeu coopératif de poutrage de zombies avec des figurines, créé par Guillotine Games, édité par Edge. C'est une assez grosse machine commerciale avec pas moins de 4 boîtes de base, des extensions à foison, des tas de figurines spéciales supplémentaires, etc. Mais tout ça sur une mécanique plutôt basique à laquelle on peut reprocher quand même une certaine redondance justement, puisqu'il faut en gros trouver des armes, tuer des zombies, avancer vers des objectifs et basta. C'est sympa, mais c'est pas fou, ça reste vraiment assez basique. Et c'est là que les règles de l'orque bourré trouvent tout leur intérêt puisqu'elles ajoutent énormément de profondeur et de sel au jeu. Donc la première étape, quand on suit ces règles, ça va être de choisir les boîtes de zombicides qu'on va vouloir utiliser donc sur les différents thèmes. Tout est possible et on peut tout agencer. La deuxième étape, on va choisir des personnages soit qui existent déjà dans le jeu ou on va pouvoir créer son propre personnage initial. À la façon d'un jeu de rôle, on va disposer d'un certain nombre de points de création selon le degré d'héroïsme qu'on veut donner à notre personnage. On va les répartir à l'aide d'une table d'équilibrage qu'il a créée et on va faire une fiche de personnage à la main ou en ligne avec un générateur de fiches de perso du jeu.
D'accord, donc en fait, là, déjà, on est sorti du cadre direct de Zombicide de base.
C'est ça, on commence déjà dès le départ, en fait, dans comment on va construire notre premier survivant de départ.
D'accord.
Donc on est déjà plus dans le jeu de base.
Ok.
Donc l'étape suivante, ça va être de créer une planque. Donc là, une fois de plus, on n'est pas du tout dans le jeu. La planque, ça va être l'endroit où le survivant de départ, puis les acolytes qui va regrouper, vont se réfugier entre les différents scénarios de la campagne. La création, elle se fait en plusieurs étapes. On va choisir la taille de la planque. Du coup, en fonction de sa taille, elle va être plus ou moins défendable parce qu'elle sera soumise à des attaques éventuelles des zombies ou des autres survivants. On va choisir les dalles, les agencer, définir les fonctions de chaque pièce. Et on aura un garde-manger, un stockage de matériaux, une armurerie, un dortoir, etc.
D'accord, mais ça repose... Il n'y avait pas une extension Zombicide qui avait fait ça déjà? Je crois que c'est Black Plague ou un truc comme ça, non?
Ouais. C'est pas une extension, c'est un nouvel opus Black Plague.
Oui, enfin, oui, tu m'as compris.
C'est pas tout à fait pareil, oui. Mais non, c'est vraiment autre chose là.
C'est vraiment, on n'est plus dans la même création de planques.
Il n'y a pas de planques dans la version de
Zombicide. Non, il y a des caches dans Zombicide Black Plague.
Ah oui, c'est ça. Oui, ouais.
Là, on n'est pas sur le même concept. En fait, on sort du plateau de jeu, de la vision du plateau de jeu, pour faire un truc de beaucoup plus large et beaucoup plus complet, avec un plateau d'aventure, des plateaux qu'on va reconstituer au moment où on en a besoin pour faire les planques des survivants, etc.
D'accord. Ok, vas-y, continue, Floyd.
Donc voilà, donc on a un certain nombre de pièces, on leur attribue des fonctions. La répartition des pièces dans les planques peut rester secrète, parce que contrairement à Zombicide, on n'est plus sur un mode vraiment coop, on est en mode survie, donc c'est chacun pour soi, et on se serre éventuellement les coudes quand on y voit un intérêt. Mais globalement, c'est chacun pour sa pomme. Hein. Une fois que tous ces aspects de préparation ont été réalisés, on attaque les choses sérieuses avec le début des scénarios. Donc là, on va générer plusieurs éléments qui sont expliqués dans les règles. On détermine un plateau en fonction des scénarios. On répartit les dalles, les portes, etc. De ça, on rejoint le jeu de base. Donc dans cette version, par contre, chaque survivant ou groupe de survivants, quand il a commencé à se constituer, possède ses propres objectifs qui vont être déterminés par un lancer de dés, l'application de modificateurs. Enfin, tout ça, c'est très bien expliqué. Les objectifs, ils peuvent être variés, ils peuvent concerner la recherche d'armement, le recrutement d'autres survivants, l'élimination d'un certain nombre ou type de zombies, la récupération de nourriture, etc. Et une fois les objectifs attribués à chaque joueur, le scénario peut commencer. Contrairement au jeu de base, où les scénarios sont finalement assez indépendants, ce système de jeu, il a pour objectif de lier davantage les parties entre elles aussi. Parce que du coup, entre chaque scénario, il va y avoir un retour à la planque avec certaines choses à gérer au niveau de la planque. Mais il permet cependant à tout joueur de rejoindre ou reprendre le cours d'une campagne à n'importe quel moment. C'est pas du tout figé. Justement, les éléments intermédiaires qu'il va falloir gérer, ça va concerner la gestion et la protection de la planque, donc de tout ce qu'elle contient, et des conséquences que cela peut avoir sur les survivants, avec par exemple la gestion de leur morale, mais surtout la gestion de la nourriture, avec les effets réels sur le jeu de la satiété en termes de fatigue que ça va impliquer, et du coup des diminutions de compétences, etc. Enfin, il y a tout un système vraiment assez pointu là-dessus. Et de manière générale, les choses vont se complexifier au fur et à mesure, et chaque groupe ne peut vraiment compter que sur lui-même, parce qu'après, ils peuvent aller se pouiller leur planque entre eux, se piller, tout ça. Enfin, ça peut devenir assez, assez violent.
Ouais, grosso modo, c'est vrai qu'on a rajouté par module une espèce de surcouche jeu de rôle sur le Zombicide, hein, parce que finalement c'est ça, c'est donner de la profondeur pour les joueurs qui en veulent plus. Et il y a deux choses bien différentes. Il y a effectivement une campagne qui a été écrite par ce mec-là, qui permet d'utiliser les tuiles, etc. Mais il y a surtout ces fameux, on va dire, appeler ça modules de survie, qui donnent de l'intérêt. Et toute la force de la chose, c'est qu'on peut l'adapter sur ce qui existe déjà, ou sur des trucs qui sont complètement créés par lui ou par d'autres personnes. Il vous donne les règles, si vous voulez, pour faire vivre votre survivant en dehors des scénarios. L'idée, elle est là.
Oui, mais justement, en fait, on va laisser finir Floette après, mais pour le coup, en fait, tout ce qu'il apporte, en fait, c'est une dimension, sortie du jeu. En fait, il se sert du Zombicide juste en termes de jeu de figurines, jeu de plateau, en fait, pour les figurines en termes de
il
physique.
Fait du lien entre les scénarios, entre les missions de campagne, et c'est vachement bien foutu parce que c'est plutôt équilibré.
D'accord.
Et ça va donner une importance aussi dans les missions que tu vas effectuer en campagne ou sur du scénario libre, parce que tu vas devoir te donner les moyens de récupérer des armes, de récupérer de la nourriture, de faire en sorte que le moral de ton personnage baisse pas, etc. Donc ça rajoute une surcouche d'objectifs en filigrane sur les objectifs de tes missions. D'accord. Ça devient un jeu de rôle.
D'accord, ok. Fini Floette, après je pense qu'on doit te poser plein de questions là-dessus.
Oui. Donc en gros, voilà, lui présente un certain nombre de règles. À la fin de ces règles, il propose plusieurs scénarios qui se déroulent à plus ou moins de jours d'intervalle, voilà, comme vraiment une histoire. Après, la créativité est évidemment complètement libre pour la suite ou pour certains choix de jeu, dès lors que tous les joueurs sont d'accord et que ça n'en avantage pas certains trop par rapport à d'autres. Donc on l'a testé, on a trouvé ça vraiment super intéressant. C'est une proposition vraiment très riche. Les règles sont quand même vraiment bien carrées, bien expliquées. On n'a pas encore assez joué pour se prononcer vraiment sur l'équilibre de ces règles, mais en tout cas, ça semble avoir été vraiment très étudié. On se retrouve avec un livret d'une soixantaine de pages, bien édité, avec des belles illustrations et tout. Enfin, c'est un joli truc qui est en accès du coup complètement libre sur Internet. Et voilà, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle preuve de créativité qui apporte vraiment beaucoup à ce jeu qui restait un peu basique. Ça donne plus de profondeur, beaucoup plus de perspective. On peut aussi, comme on disait, beaucoup plus facilement y intégrer un côté un peu plus roleplay si on le souhaite. Voilà, c'est vraiment une belle réalisation. Donc merci à l'Orque Bourré qui planche encore dur puisqu'il continue à mettre à jour de nouvelles versions qu'il améliore au fur et à mesure de son expérience et grâce au retour des joueurs.
D'accord. Son site internet, il a un site spécifique pour ça ou c'est quoi c'est,
Alors, il a un site, mais je n'ai pas le nom, mais je le mettrai sur la page Facebook. Ouais, on transmettra les...
Ok, Christophe, tu avais une question
Ouais, enfin, ça me fait un peu penser à Dead of Winter en version XXL, quoi.
XXL, je suis pas sûr en fait. Je pense que c'est moins poussé que ça, mais
Je suis pas. Les mécanismes sont pas les mêmes. Une fois de plus, ils donnent un système de jeu qui permet de donner du liant à toutes tes parties et une surcouche d'objectifs pendant tes parties.
Même pendant les parties en tant que telles, en fait, tu joues pas à Zombicide.
Tu joues à Zombicide avec des objectifs un petit peu supplémentaires qui vont être débrouillés pour collecter des armes, des munitions, consolider ta planque, etc.
Ça
donne du sens aux missions Zombicide parce que finalement, tu vas plus poutrer à outrance histoire de poutrer, mais tu vas d'abord t'occuper de ta survie parce que tu es dans une situation donnée, tu vas essayer de t'en sortir.
Dans Zombicide, on pouvait pas dire que le scénario était le meilleur du monde, mais il y avait quand même un espèce de scénario, un enchaînement de missions qui faisait office de campagne entre guillemets sur le ok, on sort de la prison, on s'échappe, on va à la ville, on trouve des munitions, on trouve des vivres, ainsi de suite. Donc il y avait quand même une espèce de suite un peu à la HeroQuest, un peu moins bien écrit que HeroQuest, on va dire, mais parce que moins profond en termes de scénario, mais il y avait quand même quelque chose.
Oui, mais l'évolution du personnage se limitait à la progression des compétences du personnage et à la taille de son inventaire, et puis c'est tout.
Et là, ils ont rajouté tout ça, l'inventaire du personnage, ils ont rajouté
un psychologie. Tu peux stocker des armes dans ta planque, consolider les éléments. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes éléments interjeux, en fait, finalement, ont une importance. Parce que, par exemple, un exemple tout con, si tu es celui sur la mission qui aura fait le plus de bruit, il y a des compteurs, il y a des façons de faire, par exemple, tu repars en voiture, tu fais le kéké, etc., etc., le jeu, dans ces règles-là, va considérer que les zombies t'ont suivi. Et tout le monde, on va pousser le plateau de jeu quand tu as fini ta mission, tu vas construire ta planque, d'accord, avec tes portes, tes machins, tes améliorations, et tout le monde va se retrouver chez toi à essayer de te piller, à essayer de te planter, alors même que tu n'es pas du tout dans une mission, tu es entre deux missions.
D'accord.
Donc il y a cet aspect d'évolution, plus que du personnage, de l'histoire du personnage.
D'accord, Christophe, tu veux rajouter D'accord, ok, pour le coup, ça c'est intéressant, mais effectivement, c'est là où je rejoins un peu Christophe sur le côté Dead of Winter, ça reste quand même... c'est le problème du jeu de zombies, c'est qu'ils se ressemblent tous... Ça se dit pas, mais vous me comprenez.
Oui.
Quand ils sont un peu évolués, quand on essaye de créer un petit peu de règles autour, effectivement, du bruit, de la psychologie des personnages, ainsi de suite, parce que Dead Winter avait aussi la notion de psychologie avec un traître possible, ainsi de suite. Mais c'est peut-être... Moi, j'ai pas encore joué, mais ça me le vend un peu plus que le Zombicide classique qui m'a un peu...
Ça ne révolutionne pas Zombicide, mais ça donne un sel qui est particulier.
Oui, clairement. Clairement. Même, ouais. Et pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant que le jeu de plateau qui a été sorti de Walking Dead officiel, qui lui était complètement plat et sans intérêt. Vous parliez effectivement du fait que les joueurs pouvaient se backstabber entre eux. Ça se fait en jeu, ça se fait entre comme on veut. Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite.
Non. D'accord, donc en plein. Ça, c'est un peu dans Zombicide, on pouvait le faire aussi, mais je suis au snipe, je veux shooter le gars qui est en face de moi. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt ?
Il meurt ?
Ah, il meurt.
Ah, il perd sa partie, il n'y a rien du tout.
Non, c'est pas un mode béni oui-oui, hein, c'est vraiment un mode qui donne de l'aventure parce que tu te retrouves avec un survivant ou plusieurs survivants.
D'accord.
Les survivants, les amis que tu acquiers au fur et à mesure de l'aventure, tu peux aussi les laisser chez toi, tu peux venir avec eux en mission, tu peux venir te faire pouiller par tes collègues et puis la mission d'après te serrer les coudes. Ça apporte une petite touche de réalisme à la chose en fait. On sort du jeu de plateau familial plus faire un truc familial rôliste en fait.
Survival rôliste. Voilà. Et derrière il y a une possibilité de créer suivant les règles mais une possibilité de créer une communauté, des échanges intercommunautés ou un truc comme ça ou pas du tout pour rejoindre un petit peu l'idée du comics qu'il y a au fur et à mesure ou pas du tout Vous savez pas, enfin, vous n'êtes pas joué à ça.
Ça existe déjà. Il y a des échanges autour de ce mode de jeu-là. C'est un mec qui l'a développé tout seul dans son petit coin. Qui, vous savez, il y a un package en fait d'outils graphiques, etc., mis à disposition par l'éditeur pour permettre ce genre d'initiative-là. Donc, il y a des mecs qui se retrouvent autour de ça pour en profiter. Le travail n'est pas terminé. Son seul défaut à ce type-là, c'est finalement de ne pas avoir fini d'écrire sa campagne, de ne pas avoir fait plus, parce que c'est une bonne idée. Il y a plein de modes qui existent pour Zombicide. Il y a plein de campagnes non officielles, mais il y a aussi plein de modes et de règles de jeu qui existent. Et lui, sa force, c'est d'avoir un truc qui a du sens. Il avait un objectif et c'est plutôt cohérent. Voilà, il n'a plus qu'à l'enrichir. Je ne crois pas que ça existe encore. Enfin, il n'a rien fait, je crois, pour Black Plague. Peut-être que ça viendra également. À voir.
D'accord, ok. Bon, on peut largement saluer l'initiative de l'orque bourré.
Oui.
Les pseudonymes, hein, franchement. Donc, bravo. On mettra donc effectivement le lien du site pour télécharger tout ça sur le. Sur l'embed. Olivier, toi, t'as déjà joué à Zombicide? Tu kiffes pas du tout?
Jamais.
Non, tu loupes rien. Moi,
c'est facile.
Ouais, c'était facile. Non, mais Zombicide, c'est un bon jeu pour le coup, parce qu'en plus, je crois que c'est pas français à la base.
Alors, les créateurs à la base sont français.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est édité, c'est localisé en fait. Guillotine Games en France, Cool Mini or Not que tout le monde connaît à l'étranger. Je me demande même si c'est pas eux qui ont commencé à l'éditer. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, les co-auteurs, les concepteurs, les designers sont français. Voilà.
Ok, d'accord. Bon, écoutez, on mettra tout ça dans le mail. Merci Flouette pour cette belle chronique. Et on va passer la parole à Oaz et à Olivier, par la même, pour parler de quoi ? Vas-y.
On va parler grandeur nature.
Grandeur nature,
c'est devenu la mode à chaque émission. Ouais. Maintenant qu'on vous explique un petit peu ce que c'était, on va tenter d'aller beaucoup plus loin.
D'accord. Alors là, on revient tous les quatre avec Ketrus, d'un gros GN qui nous a fait rêver pendant un petit moment. Donc le j'ai déjà oublié son nom. L'ultime western, la loose, qui est un jeu donc de western qui se passe en Espagne avec des décors vraiment fantastiques et tout, mais en France, on n'est pas en reste, puisque effectivement existe le Black Hill, qui, alors si je dis pas de conneries, tu m'arrêteras tout de suite si j'ai une bêtise, qui en découle un petit peu finalement, dans l'idée au moins de vouloir retranscrire l'idée western sur un site qui n'a pas à rougir du tout de ce qu'est l'ultime western. Vas-y, explique-nous un petit peu plus.
C'est réellement dans l'univers de l'ultime western en fait. C'est que j'ai commencé le GN moi, en 2010 à l'ultime western. Et quelques années après, j'ai fait 2010, 2012, 2014. Et à l'issue de la session 2012, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas faire un truc en France. Et donc on s'est lancé. En 2014, on a commencé la première session.
Ouais, alors c'est une belle entrée en matière. C'est un bon teasing qui nous fait. Donc voilà, l'idée là, c'est effectivement, on va vous parler d'Ultime Western. Donc voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, l'Ultime Western, c'est un jeu de rôle grandeur nature spaghetti qui se joue dans les studios de cinéma de Fort Bravo en Andalousie, donc au sud de l'Espagne, et qui est plutôt typé action intrigue. Et à contrario, le deuxième jeu grandeur nature dont on va vous parler, qui lui se joue environ une heure au nord de Paris sur un site de reconstitution historique de l'association Meryl & Clark. Le GN Black Hills, qui est une trilogie, en tout cas de ce qu'on en sait, mais Olivier va nous en parler, une trilogie de GN Western qui là plutôt se veut typer plutôt historique. Voilà. Donc, Olivier, avec toute son équipe derrière, est à la baguette sur l'organisation de ce GN-là. On rentre d'Espagne de l'Ultime Western. Et donc, on avait envie de faire un petit melting pot de tout ça, débattre de tout ça. Et en fait, l'idée derrière, alors, je vais essayer de ne pas vous la faire scientifique, parce que quand j'ai pris mes notes, je l'ai fait un petit peu trop intellectuel. Mais voilà, l'idée, c'était de se dire que devient l'aspect ludique dans le jeu de rôle grandeur nature, qui par nature est plutôt fictionnel, lorsque l'on tend à vouloir organiser des événements qui sont plutôt historiques. Réalistes ou semi-réalistes. On va essayer de discuter là-dessus.
Christophe ?
C'est la différence entre le grandeur nature et la reconstitution.
La première question que j'ai envie de poser après cette entrée en matière, c'est à Olivier de... Voilà, vite fait, nous on te connaît, les gens ne te connaissent pas forcément. Tu nous as dit que tu faisais du jeu de rôle depuis quelques années. Voilà, quel est ton historique dans ce milieu-là et d'où est-ce que tu nous viens et qu'est-ce que tu aimes faire ?
J'ai commencé le jeu de rôle il y a déjà... Alors, le jeu de rôle sur table, j'en fais depuis les années 80. Et au bout d'un moment, je pense que j'ai une frustration ou j'ai envie de passer à autre chose. Et je suis tombé sur une pub en 2009 où ils organisaient l'Ultime Western. Et je me suis dit, tiens, je vais franchir le pas et je vais partir dans le GN.
D'accord. 2009 de l'Ultime Western, si je n'ai pas de conneries, c'était la deuxième année. Voilà, parce qu'ils ont commencé en 2008. Donc, c'est tous les deux ans. C'est un jeune qui se déroule tous les deux ans. Donc, 2009, c'était pour le 2010. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir pour le western plus que pour autre chose finalement, parce que des GN depuis 1980 il en existe, mais le western ça c'est pas si récent que ça, enfin c'est plutôt récent justement.
Bah, tout bêtement une période que j'adore.
D'accord, on reste sur ça.
Parlait.
D'accord, et juste t'as déjà fait d'autres GN à part ça?
Par la suite, oui.
D'accord, mais ton premier truc c'est parti, c'est Ultime Western.
Complètement.
Et tu faisais déjà de la reconstitution historique western à cette époque ou pas?
Non, j'ai dû commencer à peu près à la même période. Sensiblement, je crois 2009-2010 au niveau de la reconstitution.
Alors moi, la première question qui me vient, c'est de savoir finalement si c'est le lieu qui inspire la création du jeu de rôle western, qu'il soit historique ou plutôt typé intrigue action, ou si au contraire c'est un projet de jeu qui nécessite ensuite de trouver un lieu. Lequel t'es venu en premier en fait finalement?
Pour le coup, c'est le lieu. En fait, le lieu sur lequel on fait le GN Black Hills, c'est le lieu où on effectue la reconstitution également. Et la première fois où j'y suis allé, je faisais déjà donc, du GN via l'Ultime Western. Et quand j'ai vu ces lieux-là, au bout de 5 minutes, j'ai dit il faut faire du GN ici.
D'accord. Et t'étais tout seul à essayer de prêcher la bonne parole et de convaincre du monde, ou comment ça s'est passé?
Non, il y a Charles, qui est un des organisateurs que vous connaissez, qui fait partie, qui est à l'Ultime Western avec vous, et qui a flashé sur le lieu également. On s'est inscrit en même temps à cette association de reconstitution. Et d'entrée de jeu, voilà, c'est des choses qu'on s'est dit tous les deux, on va faire un GN ici.
Et c'est à l'époque, c'est donc le premier opus du Black Hills, c'est 3 ans, c'est ça à peu
c'est
près?
C'est 2014 le premier, donc on s'y met en 2013 à peu près, 2012-2013.
2012-2013, ça fait déjà quelques années que l'Ultime Western tourne, il y a quelques épisodes sporadiques de GN Western par-ci par-là, mais c'est une période qui n'est pas encore trop exploitée, que ce soit d'un point de vue action ou d'un point de vue historique.
Non, c'est une période qui manque en France, mais je pense aussi parce que ça manque en termes de lieu, tout bêtement.
D'accord, parce qu'on est c'est une bonne question. Ça, on est sur quoi comme lieux qui sont propices à ce genre de réalisation en France? C'est des lieux de reconstitution, des lieux de cinéma? C'est quoi? Il existe quoi?
Majoritairement des lieux de reconstitution en fait en France qu'on peut essayer d'avoir via les contacts via les reconstitueurs.
Il y en a combien? Enfin, il y a celui que vous utilisez donc pour Black Hill, mais il y a quoi d'autre en France qui peut être utilisé dans le thème western? Il y en a très peu finalement. C'est peut-être pas le seul, mais.
Ouais, je dirais 3 ou 4. Il y a du côté de Bordeaux, à Sestas, il y a un gros terrain de reconstitueur. Et il doit y en avoir 2 dans l'Est de mémoire.
D'accord. Donc on reste quand même vraiment limité en termes de lieu en lui-même.
Ouais.
Oui, vas-y.
Bah, alors justement, à partir du moment où on trouve le lieu, le projet naît au milieu du milieu reconstituteur. Mais on doit faire la transition pour organiser cette aussi un jeu de rôle grandeur nature. Donc comment est-ce qu'on procède pour réunir une équipe et qu'est-ce qu'on a comme attente vis-à-vis d'une équipe pour organiser un jeu de rôle western, mais a fortiori, puisque c'est le sujet un petit peu aujourd'hui, pour organiser un jeu de rôle western plutôt typé historique. On va peut-être essayer de définir ce que c'est que l'historique.
Oui, alors là-dessus, commençons par ça. Le but à la base du GN, ça va être finalement de partir dans un truc qui a fortiori n'existe pas, ou alors d'ouvrir les voies un peu à tout en se disant qu'on
fiction,
peut accepter, voilà, on part dans une fiction, on peut accepter tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait, vous, la différence avec ça?
Alors, en l'occurrence, sur l'univers western, il y a une série qu'on adorait qui s'appelle Deadwood.
Forcément.
Où on a flashé sur cette série-là. Alors, pour avoir joué en Espagne, on avait ce côté spaghetti de tous les films Sergio Leone qu'on aimait beaucoup.
Bien sûr.
Et on s'est dit, on va essayer de partir sur complètement autre chose et partir sur ce côté historique qu'est Deadwood.
D'accord. On pourra en avoir parlé avec les orgas, eux en parlent comme un semi-réaliste, c'est-à-dire qu'ils acceptent pas mal de choses, comme les femmes qui peuvent voter ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu plus. Oui, bah, je prends l'exemple.
Alors, sorti de son contexte, ça fait bizarre, mais effectivement.
Mais c'est, ouais. Ouais, effectivement, dans le jeu, on a eu un moment un vote. Bon, bref. Mais effectivement, pourquoi cette volonté de partir uniquement sur du réalisme? C'est pas la série Deadwood qui vous a donné cette envie-là, mais c'est quoi? C'est une espèce de frustration d'un côté en disant ok, c'est pas assez proche de ce qu'on aime, ou c'est autre chose?
C'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, tout bêtement. J'aime voir le côté historique en GN depuis que je joue. J'aime dès que c'est tiré de l'histoire, j'aime ça.
D'accord, ok. Donc vraiment de coller au maximum à ce qui s'est passé. Et donc pour le Black Hill, vous avez repris une période de l'histoire spécifique avec des événements qui ont marqué à ce moment-là le western, ou pas du tout? Vous êtes parti sur une intrigue complètement fictive dans du réaliste?
On est parti sur une intrigue fictive dans le réalisme.
D'accord.
C'est-à-dire que on l'a situé dans les Black Hills, qui sont un territoire qui était un territoire indien initialement, et où il n'y avait que quelques prospecteurs sporadiques avant la grosse ruée vers l'or. Et nous, on s'est permis de créer au bas des Black Hills un petit camp de prospecteurs dans les années 70. Avant la grosse couée vers l'or. C'est l'entorse à l'histoire qu'on a pu faire.
Alors justement, tu dis on depuis tout à l'heure, je tiens à ma question et j'y reviens. Comment t'as fait, comment tu t'es réuni, de qui t'es-tu entouré et qu'est-ce que vous êtes demandé mutuellement pour mener à bien ce projet Histo ?
On s'est mis à trois tout bêtement avec Charles donc, qui fait partie de l'association et Julien qui est un ami avec qui je fais du jeu de rôle depuis des années.
Et quelles étaient les attentes ? Vous étiez raccord directement sur la ligne à suivre pour arriver à ce type de jeu ou pas ?
Globalement, oui. Avec Julien, on a exactement la même optique de jeu depuis le début. Avec Charles, c'est un peu différent, mais ça se passe bien aussi.
Oui, parce que du GN, entre type Histo, il n'y en a pas forcément des masses non plus. Donc effectivement, il faut partir d'une feuille plus ou moins blanche, surtout dans ce secteur-là. Et j'imagine qu'il faut être relativement rigoureux.
Oui, clairement. Excuse-moi, je parlais en off, mais vous êtes combien d'orgas pour faire ça ?
On était trois sur la première session. Après, on a dû passer à cinq sur la deuxième. Et là, on doit repasser à deux sur la dernière.
D'accord, donc pour combien de joueurs, rappelons-moi ?
65 joueurs à peu près, une quinzaine de PNJ à chaque fois.
D'accord, ok. Christophe, tu as une question ?
Non, justement, ma question était justement par rapport pour quelle taille ? Si on parle de GN, effectivement, on connaît des GN avec beaucoup moins de monde. Là, vous êtes quand même sur une taille assez conséquente pour aussi peu de personnes pour gérer.
On y arrive, en fait, et on s'est rendu compte justement sur le dernier opus où on descend plus qu'à deux organisateurs, c'est parce qu'on s'entend très bien et on rebondit toujours systématiquement. Dès qu'il y en a un qui a une idée, l'autre bondit. Et sur le deuxième opus, on a essayé de rajouter un peu plus de monde au niveau des organisateurs et ça passait pas forcément puisqu'on est deux ancrés sur nos idées et qu'on est sur le projet depuis le début et on a du mal à prendre les idées des autres.
Mais c'était ça qui fait aussi que le leitmotiv de base ne dérive pas vers autre chose. Je te remercie pour la transition parce que finalement, vous voyez, c'est un jeu à 60-65 joueurs, plus un peu de personnes autour. Et justement, ce n'est pas n'importe quel jeu puisque tout est scénarisé. Vous avez pris le parti de faire une scénarisation globale pour chacun des personnages. Il y a un historique, donc on appelle dans le jargon un background qui est écrit. Et donc toujours du côté orga, quels ont été les enjeux ? Comment est-ce qu'on fait pour documenter, écrire un background pour un personnage dans le cadre d'un jeu historique et comment on s'y prend en fait concrètement?
On passe des heures en fait sur Wikipédia, sur Internet à rechercher quelque chose de réaliste parce que moi-même en tant que joueur en fait dès que je reçois un bac je suis très pénible avec ça sur n'importe quel jeu, je vais chercher sur Internet voir si la personne qui me l'a envoyé c'est bien documenté.
Dans la lecture aussi des bouquins de la littérature
oui,
ou qu'est-ce que...
Oui complètement, oui, j'ai 2 tonnes de bouquins sur l'Ouest.
Ouais,
Olivier, tu as vraiment 2 tonnes chez toi parce que ça m'arrive beaucoup.
Il n'y a pas que des bouquins.
J'imagine. Mais du coup, je reviens sur le côté background justement du truc. C'est-à-dire que tous vos personnages n'ont pas forcément existé. Parce que ça peut être, ils sont fictifs en termes de création. Mais ça veut dire que la moindre. Il n'y a pas d'écart en fait, sur la possibilité d'une erreur en disant je dis une bêtise. À ce moment-là, il n'aurait pas pu rencontrer un visage connu de l'époque parce qu'il n'était pas, c'était pas la bonne date ou ce genre de choses. C'est-à-dire, vous restez vraiment pointu là-dessus ?
Oui, on fait très attention là-dessus. Au même titre que si je te fais naître dans une ville, je vais vérifier si la ville existait à l'époque.
D'accord. Et si quel personnage a pu éventuellement croiser D'accord. Et finalement, est-ce que ce n'est pas trop frustrant de devoir justement trop se documenter là-dessus je parle pour les joueurs, pour se dire c'est dommage d'avoir apparemment un personnage qui est né 10 ans trop tôt en disant c'est dommage parce que j'aurais voulu qu'il ait une influence de cet artiste ou de cette personne. Est-ce qu'il est possible de changer ? Est-ce que vous avez des réflexions de joueurs dans ce sens-là ou pas ?
Non, pas à ma connaissance.
D'accord.
Simplement, je pense que le joueur qui arrive sur ce type de jeu est averti en fait. Vous prenez personne en traître sur la note d'intention finalement du jeu, non ? Si je ne me trompe pas.
Non, on fait très attention sur la note d'intention et majoritairement les joueurs ne feront jamais gaffe en fait à la lecture de leur bac de toutes les informations historiques qui sont dedans.
C'est ouais. Pas frustrant ça ?
Du tout.
D'accord. Mmh. Ça vous gêne pas vous dire putain, j'ai passé 3h30 sur un seul personnage, il a pas vu que j'avais fait croiser ce personnage là parce que c'était à la bonne date qu'il était dans cette ville au moment, non ?
Non, parce qu'on a quelques personnages, on a quelques joueurs qui s'en aperçoivent et ça nous fait plaisir justement, même si c'est un minimum. Ça nous fait vraiment plaisir.
La question que ça m'amène directement, c'est finalement, ça demande un travail relativement exigeant de la part de l'organisation, cet aspect jeu de rôle typé historique. Mais on peut s'attendre aussi légitimement, quand on est organisateur et quand on est joueur et qu'on participe à une telle manifestation, aussi à une forte implication et à un travail en amont ou durant le jeu de la part des joueurs. Et je suppose que ce n'est pas facile tous les jours. C'est quoi le type de difficultés qui sont principalement rencontrées ou constatées par vos soins chez les joueurs par rapport à cet aspect historique, qui sont capables de se mettre dans le bain historique facilement ou pas ?
J'aurais tendance à dire que sur l'ensemble de notre gène, tu dois avoir 20% à peu près des gens qui vont faire cet effort-là. Et autrement, les 80 autres viennent tout bêtement sur un gène western. Ils ne font pas d'effort particulier.
Alors c'est quoi faire un effort particulier ?
C'est, par exemple, vous avez pu voir le docteur qu'on avait, Marc Azaguri, qui jouait le docteur sur notre session. Vous avez pu voir au sein de son cabinet médical tout l'effort particulier qu'il peut faire en termes d'immersion.
Alors l'effort d'immersion, c'est du matériel, c'est du costume, c'est peut-être aussi au niveau du rôle, l'interprétation du rôle, non ?
Complètement.
Et donc,
c'est-à-dire que, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple de Marc, c'est un joueur qui va faire une autopsie en jeu, et en l'occurrence, vous allez pouvoir passer devant son cabinet médical pendant une heure, il va être en train d'écrire les résultats de l'autopsie. Il joue dans sa tête, il joue pour lui, et à côté de ça, ça vous donne, vous, juste l'impression d'avoir un médecin qui est en train d'écrire.
Alors, ce n'est pas propre forcément au gène historique, mais en tout cas, il le fait dans un cadre historique. Donc, c'est des trucs qui sont... C'est marrant, c'est encore une superbe transition. Finalement, c'est des actions qui sont finalement pas toujours flamboyantes. Est-ce que finalement, cet aspect-là, l'histo, la fidélité historique, même jusque dans le roleplay, est-ce que finalement, ça ne tue pas un petit peu l'aspect ludique, l'intérêt ludique de la chose ?
Je ne pense pas. Je vais penser à notre forgeron, par exemple, où sur pas mal de jeux, vous allez vous contenter de trouver des petits papiers avec écrit un morceau d'or. Et là, sur notre jeu, en fait, vous allez réellement trouver du métal en forêt que vous amenez au forgeron qui va forger vos lingots. Et je sais que les joueurs en sont très friands d'avoir en main l'objet de ce qu'ils ont trouvé. Quoi.
Alors, je donne un autre exemple auquel je pense tout de suite, c'est la bouffe aussi. Sur oui. Ce gène, on mange divinement bien. Et qui fait la nourriture ? Qui fait la bouffe pour les joueurs ?
C'est Chantal, une amie qui fait de la reconstitution depuis des années et qui fait donc de la nourriture pour les reconstitueurs. En l'occurrence, elle vient pour nous. Et c'est un régal de pouvoir manger au feu de bois pendant 3 jours.
Donc, on mange avec les techniques traditionnelles de l'époque, de la super nourriture pendant 3 jours. Et ça concourt vraiment à l'immersion dans le jeu.
C'est une catégorie vraiment spécifique de jeu, ce côté historique, parce qu'en termes de rythme de jeu, on n'est pas du tout sur toujours la recherche de 36 000 actions. Enfin, il y a des moments où aussi on est juste dans le décor, dans l'ambiance, à vivre comme vraiment vivrait notre personnage sans forcément être dans une intrigue, etc. Donc c'est vrai que c'est important que dans la note d'intention, ce soit clair, parce que certains joueurs pourraient être déçus de ça. Mais au contraire, moi je sais que j'ai beaucoup aimé ce côté-là aussi. Et voilà, c'est une réalité du gène historique. On est sur un autre rythme quand même à certains moments.
Oui, je crois que c'est d'ailleurs le terme que tu m'avais, quand on était sur le jeu, que tu m'avais donné, c'est du slow play en fait. C'est vraiment un jeu qui va être lent. C'est-à-dire que chaque action ne va pas avoir une conséquence qui va être directe. On peut passer 2 ou 3 heures en faisant juste un lieu de vie en final et puis pas forcément avoir d'interaction ou de combat, parce que finalement il y a très peu de combats aussi. Mais tout va, enfin toute la reconstite et le GN va se mêler pour pouvoir faire le jeu en fait sur tout le long du week-end. Et ça peut être un peu frustrant pour certains joueurs, j'imagine, s'ils sont pas prévenus à l'avance. Est-ce que tous les joueurs qui signent aujourd'hui sont sur ce mode de jeu pour le Black Hill en tout cas, ou vous avez eu des retours?
J'ai tendance à imaginer que oui. Le premier opus était plus mitigé. On avait pris pour fond une fête de village. Et il y en a qui ont vraiment été étonnés par le rythme de jeu, alors qu'on, tout bêtement, en fait, nous, on savait déjà qu'on partait sur une trilogie, on voulait mettre les personnages en place, et on ne voulait pas qu'il y ait de mort particulier, que chacun puisse s'approprier son personnage sur fond de fête de village.
D'accord, ok. Sur le deuxième opus, c'était volontaire aussi, le côté, il y avait aussi un côté slow play, mais est-ce que le côté mort des joueurs était possible, plus possible que sur le premier ?
Il était beaucoup plus possible, c'était vraiment, le deuxième était intitulé Gold Rush, parce que c'était vraiment la ruée vers l'or, et on voulait qu'il y ait cette ambiance tendue que vous avez pu voir pendant le jeu.
Oui, bien sûr.
Alors, on attire quoi comme type de joueur là-dessus ? On attire comme toi finalement des gens qui font de la reconstite et qui veulent jouer ? On attire des joueurs qui font du jeu à intrigue toute l'année et qui, pour une fois, ont envie de faire autre chose. Enfin, je sais pas, dans les amis, dans les connaissances, dans ceux qui viennent s'inscrire, qu'est-ce qui les motive à venir à franchir le pas ?
Je pense majoritairement, tout bêtement, l'univers western. Hein, parce que des gens qui font et de la reconstitution et du GN, on est très peu. Hein, je pense que sur le GN, on devait être une demi-douzaine à tout casser. Autrement, c'est vraiment des gens qui... Cet univers plaît, tout bêtement. Après, on cite la référence de Deadwood. Il y a plein de gens qui adorent Deadwood et qui sont sur notre jeu.
Oui, alors c'est marrant parce que quand j'en discutais avant avec Olivier, il m'assure que ce jeu n'est absolument pas construit autour d'une foultitude d'intrigues et qu'on n'est pas là pour faire la course au scénario. Mais finalement, on s'en est rendu compte en l'ayant fait. Quand on est en jeu, on va rassurer ceux qui nous écoutent et qui connaissent déjà le gène ou même ceux qui ne le connaissent pas. On ne s'ennuie pas un seul instant. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais pour ma part, je ne me suis pas ennuyé un seul instant et je vous vois faire 8 de la tête également. Parce que voilà, l'intrigue se crée d'elle-même, en fait. C'est un peu la philosophie de la chose.
Oui, c'est ça. Et à la fin du jeu, on se retrouve avec des intrigues qu'on n'avait même pas du tout pensé. J'entends parler j'entends parler d'intrigues. En fait, par exemple, toi avec tes prospecteurs chinois qui avaient empoisonné la rivière, c'est pas du tout une intrigue.
Ça va avoir, j'imagine, des conséquences sur le troisième opus ou pas du tout ?
Du tout, c'est des choses complètement inventées par les joueurs.
D'accord, mais les conséquences elles vont retomber quelque part ou ça va être...
On le garde en tête qu'une partie de la population en veut aux Chinois d'avoir empoisonné la rivière.
Ah, forcément.
Merci pour l'info. Bon,
finalement, le méta, comment ça se passe Mais ok, enfin, je disais oui de la tête pour le côté intrigue. Au-delà du fait de m'être fait tuer après 1:30 de jeu, j'étais obligé de le dire pour ça. Effectivement, j'avais. Moi, j'étais très étonné en fait, et au début. Étonné un peu de façon négative sur le côté vraiment très lent en fait du jeu, parce que peut-être que je m'attendais clairement à un jeu un peu plus spaghetti dans l'idée, ou un peu plus action badass, vraiment poseur en fait. Alors des poseurs, il y en a, hein, je rassure tous les auditeurs, on peut voir du badass en plein milieu de la rue qui traverse la rue, t'as pas envie de le faire chier, mais j'étais vraiment étonné par ce slowplay, et du coup c'est parfois difficile si on est, j'imagine, un peu timide, ou qu'on connaît pas forcément du monde, ou que notre personnage n'a pas vraiment de relation en jeu, de commencer à jouer, de se trouver des intrigues, des choses à faire, ça peut être un peu refroidissant, je veux dire, pour le coup.
Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que au contraire, enfin, ça a un côté très immersif. Ce rythme un peu vraiment lent et tout, où on s'imprègne vraiment beaucoup plus de l'ambiance, de tout ça, et c'est pas forcément on s'ennuie pas forcément, et on n'a pas forcément, enfin effectivement les choses arrivent d'elles-mêmes au fur et à mesure en fait.
Alors, est-ce que c'est un jeu, Olivier, pour joueurs d'expérience?
Je pense qu'on s'est attaché à prendre des débutants, notamment sur les premières et même sur cette session-là. Donc je pense que tous les joueurs peuvent s'adapter à ce type de jeu.
D'accord, il faut être volontaire, quoi, finalement.
Oui.
Bien préparé, savoir à quoi s'attendre, avoir lu la note d'intention et son bac, et être volontaire.
Oui, surtout la note d'intention, en fait, et de ne pas venir là par hasard.
Bon, je suis pas venu par hasard. Mais je reprends, j'ai pas dit que je m'étais ennuyé, hein. J'ai dit que j'étais surpris, en fait, par la lenteur, entre guillemets, de l'intrigue et de la façon dont ça se déroulait. Je reviens juste un truc avant de voir, enfin, Ketrus voulait poser une question. Mais juste, Waz disait tout à l'heure que c'était scénarisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, sur l'aspect général du jeu, c'est-à-dire l'histoire de fond du jeu, vous avez tout prévu à l'intérieur, c'est-à-dire des actions qui vont arriver, qui vont rythmer tout le jeu, ou juste vous avez. Juste l'histoire de base, et pas forcément. Enfin, je me reprends un petit peu parce que c'est pas compréhensible pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de GN qui vont donner des rythmes. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il va avoir une action qui va faire amener du joueur et donner l'impression au joueur que la ville autour d'eux est vivante. Et il y en a d'autres qui vont juste donner une trame de fond, et si le joueur se bouge pas le cul pour la faire bouger, bah, elle se déroule, mais finalement personne va la voir. Vous êtes plutôt dans quel système ?
Sur une trame de fond qui se déroule, et si les joueurs s'en occupent pas, c'est pas très grave. Mais en aucun cas, il y aura une intrigue globale qui soit très importante. En fait, c'est les intrigues de chacun, de la vraie vie de tout le monde.
D'accord. Oui. Christophe ?
Donc, grosso modo, vous créez l'univers et les conditions pour les joueurs de jouer dans un mode réaliste, historique, et en même temps, ça permet aussi aux joueurs de créer leurs propres intrigues et de créer leur propre jeu. Par contre, il faut avoir des joueurs qui soient sur la même longueur d'onde que vous au niveau du réalisme historique. Un joueur qui va, ou un groupe de joueurs qui vont commencer à créer une intrigue qui va paraître totalement top en termes de réalisme historique, comment tu gères ça ?
Ils ne créent pas réellement leurs intrigues, les joueurs. Ils vont créer des moments de jeu, mais ils ne vont pas créer une intrigue de A à Z.
Ouais, c'est-à-dire, si, enfin, pour rejoindre un peu limite des Comelons, c'est-à-dire si... c'est un peu bêtement la méta du jeu, mais genre, si un groupe de joueurs décide de s'allier avec les Indiens juste pour faire autre chose et essayer de rouler sur la ville, par exemple, j'exagère vraiment volontairement le trait, est-ce que ça reste possible, ou est-ce que vous allez finalement essayer de bloquer ce genre d'action ?
Si elle est réaliste et logique, on s'adaptera.
D'accord, ok.
Ça reste une fiction finalement quand même, enfin, une intrigue fictionnelle.
Oui, fictionnelle dans un monde réaliste. Ouais.
Et bon, moi j'ai envie de m'intéresser, parce qu'on parle de beaucoup de rôles différents, moi j'ai envie de m'intéresser à un rôle particulier sur lequel je sais que tu ne taries pas d'explication par rapport à ton jeu là-dessus, et tu rigoles déjà, c'est le rôle des femmes. C'est le rôle des femmes dans l'univers historique, et qui n'est pas du tout le même que le rôle des femmes dans tous les univers fictionnels dans lesquels on a l'habitude de jouer. Ça veut dire que là, qu'est-ce que viennent chercher, à quoi peuvent s'attendre les femmes, les joueuses femmes qui vont prendre un rôle de personnage féminin, parce qu'il est exclu vu que c'est de l'historique qu'elles prennent un rôle de personnage masculin dans cet univers western. Qu'est-ce que vous êtes prêtes à leur proposer, et est-ce qu'elles ne sont pas finalement prêtes à aller beaucoup plus loin dans l'interprétation du rôle vu la réponse que tu sembles vouloir, que tu vas peut-être nous donner à ce sujet-là, que ce que feraient les hommes, parce que voilà, c'est difficile.
C'est une place difficile, surtout qu'à l'heure actuelle, sur la plupart des gènes, vous avez trouvé 50% d'hommes, 50% de femmes. Et nous, on continue à se limiter. On doit avoir, sur la prochaine édition, 65 rôles, dont 15 rôles de femmes.
Ah oui, ouais, ça, c'est vraiment...
Alors, et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ou même pour ceux qui le connaissent et qui n'ont pas forcément saisi toute la chose, qu'est-ce que vous leur proposez à jouer ?
La plupart sont des femmes de... entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est une femme de bûcheron, c'est une femme de mineur. Mais est-ce que ça fait plus rêver d'être femme de bûcheron ou d'être bûcheron soi-même ?
Alors,
je n'ai pas de réponse.
Pas forcément, mais ça peut être un peu plus limité en termes de jeu et en termes d'interaction sociale.
Parce qu'on est justement dans le jeu de rôle et pas dans la reconstitution historique, comment est-ce que vous faites pour donner de l'intérêt, pour donner de la profondeur, pour donner l'envie de jouer ces rôles-là aux joueuses qui les reçoivent et qui les lisent ?
Ce qu'on essaye de faire, c'est au moment de l'écriture de personnages, de donner pas mal d'informations au personnage joué par la femme, qui en aura souvent plus que le mari et qui peut contrôler en fait en arrière-plan ce qui se passe dans cet univers qui est complètement masculin. On donne un certain pouvoir aux femmes en fait de tirer les ficelles dans l'ombre.
Donc c'est un espèce d'artifice légitime au regard de l'aspect ludique en fait, de fait que ce soit un jeu quoi.
Est-ce qu'il n'est pas réel dans la vraie vie ?
Peut-être. J'allais dire ça au final, parce que finalement, genre, avec tous les cancans qu'il pouvait y avoir à l'époque, des femmes qui se réunissaient pour balader les rumeurs entre elles et ainsi de suite, finalement, parce qu'on se regroupe pas, on recoupe pas ce genre d'informations comme ça, qui font que finalement les femmes connaissent énormément de choses de la ville et des personnages en eux-mêmes, que les maris ne verront pas tout simplement parce que ils s'occupent de couper le bois et puis on s'en fout quoi.
Ouais,
Et puis au-delà de ça, les prostituées savent tout.
J'allais
quoi.
Y venir. J'allais
je veux dire, les confidences sur l'oreiller.
Non, mais alors justement, voilà, déjà, moi j'ai
elles
deux questions.
Elles ont les clés de tout.
T'as un retour des femmes qui l'ont joué. Je suppose qu'il y a toujours des satisfaits, des insatisfaits. Mais déjà, quel est le premier quel est le retour là, à blanc sur ce type de rôle-là ? Qu'est-ce qu'elles en retiennent ? Qu'est-ce qui les a intéressées ?
Bah, visiblement, ça les intéresse pour la plupart, parce qu'elles reviennent pour la plupart dans leur rôle, donc c'est que ça leur plaît. Mais comme je disais, même à l'époque actuelle, au XXIe siècle, il y a pas mal de femmes qui continuent à tirer les ficelles dans l'ombre. Hein. Vous pouvez avoir des hommes de pouvoir, ça reste à la maison la femme qui va quand même le pousser sur certaines choses.
Alors ouais, donc on précise bien à ceux qui écoutent, hein, c'est pas du tout réducteur, mais moi ça m'a vraiment interpellé, c'est pour ça que j'ai amené cette question-là, Olivier, volontairement, et tu le sais. Mais est-ce que finalement, c'est pas plus compliqué de caster la bonne joueuse qui va interpréter ce rôle féminin pour que, tant pour elle que vis-à-vis du jeu, tout se passe bien, que tout le monde soit satisfait.
Si, on fait très attention, notamment sur la première session, on avait majoritairement des femmes qui vous jouaient des Calamity Gen.
Donc très spaghetti.
Très spaghetti, très Calamity Gen, et d'entrée de jeu, en fait, on ne les prenait pas.
Parce que volonté de... Mais Calamity Gen a
existé. Pour ne pas qu'elle soit déçue.
D'accord, ok.
Tout bêtement.
D'accord.
Donc l'importance du casting.
Oui, vraiment. Je fais juste un pas en arrière pour revenir sur la réflexion de Floette sur la prostitution, parce qu'on va j'aimerais qu'on s'y attarde un tout petit peu, pour éclaircir un peu ça, parce qu'on entend le mot popper en plein milieu d'une discussion. Mais pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se joue en jeu, j'aimerais bien qu'on puisse l'expliquer pour pas faire peur aux gens et savoir quel est l'intérêt d'une femme de jouer une prostituée dans un jeu comme ça, que moi je trouve extrêmement important. À tout plein de niveaux et que, comme Floette l'a dit, au niveau de l'information. Alors, au niveau de la prostituée, comment se jouent les scènes de sexe, entre guillemets, sur le jeu ?
Pour le coup, on n'a pas de règles.
Ah, d'accord. Donc, chacun fait ce qu'il veut ?
C'est chacun fait ce qu'il veut.
Oh
c'est...
non !
Alors, ça nécessite des joueurs d'expérience.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, en visuel, si quelqu'un a une relation sexuelle et que ça se passe devant d'autres joueurs, on veut qu'il y ait une sorte de mime ou quelque chose qui fait que visuellement, on a l'impression qu'il y a une relation sexuelle.
D'accord.
Si
c'est-à-dire, ils sont dans une bulle, on voit qu'ils sont connectés ? Ou ça va plus loin ?
Il faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse penser à une relation sexuelle.
Parce qu'il y a plein de règles qui existent. Enfin, il y a l'Ars Amundi qui existe, qui permet juste de prendre l'avant-bras de la personne et avoir une espèce de truc comme ça.
Le chant,
le fait de chanter, de crier ensemble, ce genre de choses. Il y a plein de trucs qui existent. Donc vous laissez ouvert le champ aux joueurs pour qu'ils s'accordent là-dessus avant.
Complètement. Soit ils sont enfermés à l'écart. Je sais pas. On va prendre les prostituées. Elles sont en haut à l'étage. Là, les deux joueurs font ce qu'ils veulent. Et par contre, s'il y a une relation sexuelle qui est dans la rue, mais il faut que le passant lambda ait l'impression qu'il y a une relation sexuelle.
D'accord, ok. Donc on reste sur un côté
liberté réaliste. Sur l'interprétation du rôle. Mais c'est pas juste une lubie, c'est que ça a un intérêt du point de vue du jeu. C'est ce que tu dis. Il faut que ce soit compréhensible, qu'il y ait un signe qui soit compréhensible de la part du quidam lambda qui passe à côté, quoi.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et en termes de règles, justement, Floette en faisait une référence sur la confession sur l'oreiller. Il y a une règle par rapport à ça ou pas ?
Du tout, en fait, on donne. Alors, nos prostituées sur le jeu ont excessivement d'informations. et qu'elles peuvent distiller au gré de leur humeur.
D'accord.
Et en aucun cas, un client qui vient de tirer son coup va avouer son grand secret. Il n'y a pas de règle du tout.
D'accord, il n'est pas obligé de dire quelque chose.
Non, on laisse excessivement de liberté aux joueurs de ce niveau-là.
D'accord, ok.
Je trouve que c'est en ça que finalement, c'est pas forcément super facile. Mais qu'en même temps, c'est très, voilà, si je peux me passer le terme, c'est très jouissif aussi d'un point de vue roleplay parce que. On pompe pas, on a l'habitude dans les jeux de pondre des règles de simulation pour les combats, pour les ouvertures, pour les serrures, pour n'importe quoi. Là, le fait qu'il y ait voilà, une simulation de l'acte sexuel, ça va avec l'aspect historique, j'imagine, parce que ça tenait dans la société de cette époque-là une place relativement prépondérante. Maintenant, ça nécessite quand même d'avoir des joueurs qui soient pas pris complètement dépourvus sur la façon de jouer, qui soient capables, pendant le jeu, de s'accorder, de prendre le temps de s'accorder sur la façon dont ça doit être joué sans qu'il n'y ait de gêne, hein, parce qu'une fois de plus, ça aussi, c'est important, parce qu'on reste dans un jeu. Mais finalement, vous faites énormément confiance aux joueurs pour jouer cet aspect-là et pour tirer la quintessence de ce roleplay-là. Le champ est complètement libre, comme sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses dans votre jeu, quoi.
Oui. Mais confiance aux joueurs.
Du coup, en fait, ça reste un GN pour personnes expérimentées. C'est-à-dire, vous prenez pas des personnes débutantes sur.
On en a eu pour qui ça s'est bien passé.
Ouais.
Vous les briefez avant?
Voit la note d'intention, on discute souvent via Facebook, je discute avec eux.
D'accord. Christophe, c'est une question ? D'ailleurs, vous n'avez pas de PNJ dans le jeu, à part les deux organisateurs ?
Si, on a une quinzaine de PNJ à peu près, mais nos PNJ sont vraiment très particuliers, comme vous avez pu le voir aussi sur le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont un background, ils ont toute leur vie qui est écrite exactement. En fait, il n'y a pas de différence entre les BG d'un PJ ou d'un PNJ, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire D'accord. que tu peux lui poser une question à tel moment, il connaît sa vie, son œuvre.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la différence finalement du coup entre un PNJ et un PJ ?
C'est-à-dire que tout bêtement, si j'estime que j'ai quelque chose à demander à un joueur, une action forcée, il devient PNJ. On va prendre l'exemple, par exemple, sur notre jeu, il y avait le propriétaire de l'hôtel qui devait vendre son hôtel. Je voulais que son hôtel soit vendu à 15h le samedi. Je le mets pas en joueur, c'est un PNJ.
D'accord, c'est la seule différence.
C'est la seule différence.
À côté de ça, il peut faire des intrigues qu'il veut.
Il fait tout ce qu'il veut du jeu, mais il est obligé de faire ce que je lui ai dit à tel moment.
D'accord, ok. Bon, ça reste quand même vachement limité. Enfin, c'est une obligation assez limitée en termes de jeu. C'est plutôt agréable, en fait.
Oui, complètement. Les PNJ, de toute façon, ils sont heureux sur notre jeu, en général.
Ce qui n'est pas le cas pour les autres.
Alors, je vais continuer. Un deuxième point qui te tient à cœur assez profondément, c'est finalement au-delà. Donc, on parlait du rôle des femmes, mais finalement, dans l'interprétation des rôles. En règle générale, cet aspect historique fait qu'on est amené à jouer des choses de manière beaucoup moins soft qu'on aurait pu les jouer dans d'autres univers. Je pense tout simplement, on a parlé du sexe, mais il y a également l'alcool, la violence, les propos racistes, les propos sexistes, la façon de se comporter, de se déplacer dans la rue, le business, les affaires, etc. Tout ce qui concourt, et a fortiori, et tout le monde peut le voir, à la rudesse entre guillemets de l'univers western. Comment est-ce que vous appréhendez ça ? Comment vous demandez aux joueurs de s'immerger là-dedans ? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire ? Et voilà, où est votre déception finalement là-dedans ?
Comme tu l'as dit justement, t'es bien passé pour le savoir, on a beaucoup parlé. Il y a ce côté décevant de notre part. En l'occurrence, par exemple, tu as joué un chinois sur le dernier opus et en fait, l'ensemble des joueurs a du mal à jouer le racisme. N'arrive pas à insulter un chinois qui passe dans la rue.
C'est difficile, dans le monde actuel, c'est extrêmement difficile de se lâcher là-dessus. Même si on peut le faire dans un cadre privé pour en rire, alors de se le faire sur un GN, ça fait vraiment un peu bizarre, non ?
Enfin, c'est privé sur un GN.
Moi, un chinois de 2 mètres, en même temps, je ne vais pas me foutre de sa gueule. Hein, perso.
Oui, c'est vrai.
Donc, globalement, les joueurs n'arrivent pas à jouer.
On n'arrive pas, et on s'en est rendu compte la dernière fois au bout de 2 jours de jeu.
Il y a des ateliers ? Il y a quelque chose pour s'y préparer ou...
On avait prévu des ateliers qu'on n'a pas eu le temps de faire, et ce coup-ci, on va vraiment essayer de les faire. Mais on a vraiment été déçus, je dis par exemple, au bout d'un jour de jeu, de voir une affiche placardée chez le shérif, comme quoi il était interdit d'insulter les Noirs, d'insulter les Chinois, d'insulter les Indiens. C'est pas du tout réaliste dans cet univers-là.
Donc dans le roleplay, mais également dans les décisions qui sont prises par les personnages, donc par les joueurs qui y a derrière les personnages, il y a un transfert entre les deux et ça manque de réalisme, quoi.
Oui, les gens ont un problème avec ça, au même titre qu'on avait souci avec les femmes au niveau du saloon. En principe, une femme dans les saloons de l'époque, il y avait une pièce particulière pour les femmes. Elles rentraient dans les saloons, mais dans leur pièce particulière. Là, cette année, on a essayé de mettre une partie du saloon qui était réservée aux femmes. Et très rapidement, en fait, hommes et femmes se mélangent parce qu'on n'arrive pas le temps d'AGN à repasser un siècle avant.
Mais alors, c'est quoi qui pêche ? C'est pas forcément la bonne volonté des gens. C'est parce qu'avec le temps qui s'égrène, la fatigue, ils n'y pensent plus. C'est parce qu'ils ne sont pas assez préparés à ça, peut-être. On leur transmet des backgrounds avec un historique dessus. Est-ce que vous faites un point particulier dans les informations que vous leur transmettez en avant ? Attention, il faudra se comporter comme ci, comme ça, avec un certain nombre de consignes.
on essaye, mais visiblement, ça ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé encore la petite chose qui fait que les gens puissent se tenir.
Ouais, Kétru, c'est une question. Vas-y, sors de l'ombre.
Bah, ouais. Déjà, au-delà du fait que vous en parlez comme une grosse déception, moi, je trouve ça plutôt pas mal que les gens aient du mal à être racistes et misogynes.
Oui, oui. Enfin, voilà,
bon, ça, c'était l'aparté. Et plus sérieusement, c'est pas une reconstitution historique. C'est pas un film. Voilà, c'est pas un documentaire sur l'époque d'il y a un siècle. On sait tous qu'un GN, c'est une interprétation. Ça a sa propre vie et tout ça. Et du coup, effectivement, ça va être dur de demander aux gens d'être vraiment très, très précis dans leur comportement, entre guillemets, historique. Est-ce que tu veux vraiment être vraiment à la reconstitution historique et que les gens soient vraiment racistes, misogynes, ce genre de choses ou d'autres comportements? Ou est-ce que c'est une semi-déception et tu es quand même content du jeu qu'ils ont pu faire dans ton GN?
Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça conditionne le jeu d'autres personnes également. C'est-à-dire que le chinois, ou par exemple on avait une indienne sur le dernier opus, où tout le monde est censé être raciste avec cette indienne-là, et en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, ça, le fait qu'on n'ait pas cette attitude raciste lui conditionne complètement son jeu et elle ne joue pas comme elle devrait jouer. Et pour notre joueur en fait, chinois, indien, c'est une déception parce qu'il voudrait jouer autre chose. Lui, notre chinois, il voudrait que le temps d'un week-end, tout le monde soit raciste avec lui.
Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que ça gâche le jeu de certains
joueurs. Complètement, personnes. En fait, ce côté bisounours de la part de certains joueurs, en fait, gâche le jeu d'autres joueurs.
D'accord, parce que ce jour-là, il est préparé à ça, il va se dire, ok, parce que les gens vont me fermer toutes les portes, je vais devoir trouver une façon d'accéder à ce que je veux, ouais. À vendre mon or ou à arnaquer quelqu'un, ou finalement, ça va le forcer à, intellectuellement à faire autre chose, en fait.
Ah ouais,
Voilà, tu résumes bien, en fait, le chinois lambda qui n'a pas le droit de rentrer au saloon, en fait, pendant tout le gène, va essayer de trouver un moyen de rentrer au saloon en faisant chanter le patron, en faisant quelque chose, en fait. Et là, si d'entrée de jeu, tu as ce côté bisounours et que tu le laisses rentrer au salon, en fait, tu pulvérises son jeu pendant le week-end.
D'accord, ouais.
Oui, mais en fait, pour replacer les choses dans leur contexte, ce n'est pas du zèle élitiste, en fait. Parce que nous, on a une offre de jeu de la part de cette équipe d'organisation qui, on vous propose de faire un jeu, on peut se rappeler que c'est un jeu de rôle, mais dans un cadre le plus historique possible. Et donc, on vous demande d'en respecter les canons, en fait, finalement, c'est ça. Et la déception, elle est là, en fait. C'est pas que les gens soient pas capables d'être racistes, au fond. C'est qu'ils se sont inscrits en connaissance de cause en ayant cette aspiration-là, eux aussi, d'avoir cette véracité, enfin, de toucher du doigt cette véracité historique. Et c'est un petit peu décevant de voir que, finalement, par rapport à tous ceux qui s'engagent, questionnaire, Olivier, pour nous en parler, ton questionnaire, par exemple, de casting, qu'est-ce que tu mets dedans?
Je l'ai pas en tête, mais plein de questions. Et justement, dedans, on pose êtes-vous prêt à jouer un raciste, oui ou non? Et à 90 ou 95%, tout le monde me met oui, je veux bien jouer un raciste. Oui, je veux bien être violent.
Effectivement, c'est plutôt comme Zekesru, c'est plutôt rassurant finalement que les gens le soient pas. Hein, mais,
oui, mais en fait, ils sont pas en adéquation avec le questionnaire qu'ils remplissent.
Clairement, ça, c'est un problème.
Ça sera un autre sujet sur les castings en gène.
Et c'est combien de temps en fait Black Hills? Ça dure combien de temps en termes de
jeu? 2 jours à chaque fois, parce que justement on aime bien ce rythme lent, donc ça va être du vendredi après-midi au dimanche après-midi.
D'accord.
J'aime bien qu'il y ait 2 nuits en jeu.
D'accord, ouais, donc c'est pas trop long et c'est vrai que les gens pourraient faire un effort là-dessus. Quoi. Non, mais c'est vrai
on va quitter après le thème du côté racisme. Ça donne l'impression de se dire ah, putain, les gars, vous êtes pas assez violents, alors que c'est pas du tout ce qu'on essaie d'amener.
C'est pas que le racisme, c'est l'interprétation des rôles.
C'est dire aux gens, voilà, parfois il y a des choses qui sont difficiles à jouer parce que ça sort du cadre et on doit forcer ou se forcer à être quelqu'un ou quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on déteste dans la vie parce que ça reste dans le cadre du jeu et que. Le GN sert aussi à ça et le jeu sert aussi à ça, de se dire pendant un temps je vais changer de rôle, changer de vie et pouvoir penser peut-être autrement, voir ce que ça fait de penser autrement. Mais ça ne change pas fondamentalement la personne qu'on est.
Et on a forcé personne à s'inscrire.
Kétrus avait une autre question, il va reprendre le micro tout doucement et je meuble pendant ce temps, oui.
Non, en fait c'était pour rebondir juste sur ce que tu disais, je comprends ce que tu voulais dire. Et quand je disais que ça ne dure que 2 jours, c'est que par exemple sur 4 jours, ça peut être très compliqué d'assumer un rôle qui n'est pas le sien parce qu'on n'est pas des acteurs et même les acteurs on dépose quand ils jouent au cinéma. Donc voilà, c'était juste pour reprendre la fin de ma phrase. Et oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais ça reste un jeu, ça reste une détente. Et on joue quand même très longtemps, quoi. Je veux dire, des fois, on joue 12 heures par jour. Et c'est pas toujours facile d'être raccord à son rôle. Mais j'ai compris, t'es exigeant. Et tu as raison. Et c'est pour des bonnes raisons également. Quoi.
Oui, enfin, en même temps, j'imagine que quand on est orga et qu'on organise. Enfin, combien de temps la préparation du jeu jusqu'au jour J? Combien de temps de d'écriture, de préparation, tout ça?
La question tout à l'heure, je sais pas, c'est 6-8 heures par BG, donc tu multiplies par 60 et quelques.
Moi, je suis peu, moi les maths, tu sais, hein, j'ai pas de...
Après, c'est donc on essaye de en général, par contre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que on veut que les joueurs aient leur bac 2 ou 3 mois avant. systématiquement, je crois qu'on n'a jamais été à moins de 3 mois avant, de manière à ce que tu puisses préparer ton costume et que tu puisses préparer ton personnage si tu as envie. D'accord. Après, ça nous a été reproché hein, d'entrée de jeu sur le premier opus, on l'avait donné 4 mois avant, et j'ai eu des plaintes de joueurs qui m'ont dit non, ça se fait pas dans le milieu du GN, un bac ça s'envoie 15 jours avant.
Les gars, vous êtes trop prévoyants. Si vous pouviez être un peu en retard comme tout le monde et pas démarrer à l'heure, ce serait plutôt cool. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre pour le coup, mais tu parles uniquement des bacs, mais il y a d'autres choses à préparer, j'imagine. Enfin, après, le scénario de base, là où vous voulez amener un peu les joueurs, ce genre de choses, non?
Oui, ça, le scénario en règle générale, il se fait sur des réunions orga où on fait nos grosses trames, l'ensemble des trames, et après qu'on va appliquer aux différents backgrounds qu'on écrit.
D'accord, donc finalement, d'une année sur l'autre, c'est tout le temps, tout ton temps libre qui passe là-dedans.
En grande partie, puisqu'après, il y a toute la préparation du matériel. Vous avez vu le General Store, où je fais toutes les conserves manuellement.
Ça a été un gros poids positif la première fois que j'ai mis le pied dans le General Store, mais c'était marrant. Mais parce que tout est là, tout est prévu pour être vendu. Moi, j'ai acheté une lame rouillée pour faire peur à des gens. J'ai pu trouver ça, on me l'a vendu $2, j'étais comme un fou. Enfin, c'est vraiment très très bien. Ouaz, tu voulais reprendre?
Tout ça, c'est pour dire voilà, il en existe pour tous les goûts. Voilà, là, c'est un truc qui est proposé sur le typé historique. On n'a pas eu le temps, mais on en parlera peut-être plus tard de parler de l'Ultime Western, qui est pas du tout, basé sur les mêmes principes, et c'est pas pour autant que c'est pas bien non plus en fait. Hein. Donc voilà, c'est une offre de jeu et chacun voit midi à sa porte. Mais surtout, moi, le message que j'ai envie de passer, pourtant je suis pas un vieux joueur et j'ai pas envie de moraliser. Si vous inscrivez pas sur tes jeux, histoire de dire que vous êtes inscrit dessus, quoi.
Bah, pour le coup, oui, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une notion, où tu as peut-être entendu parler par des joueurs de bleed in, bleed out sur le côté jeu, c'est-à-dire quand on sort du jeu, on se sent encore un peu concerné ou mal par les événements qu'on a vécu ou justement, est-ce que tu t'entends, t'as des retours de ce genre ou pas du tout?
On a certains joueurs qui le vivent mal.
Le retour à la réalité ou le fait d'avoir joué quelque chose qui les a contrariés?
C'est le retour à la réalité, tout bêtement. Ouais. Après avoir vécu deux jours façon 19e siècle, on a du mal à repartir en voiture, reprendre sa vie de 20e siècle.
C'est gratifiant. Tu réponds pas, mais ils sourient. Hein. Effectivement. Ok, ouais. Est-ce que vous avez encore des questions, des interrogations, des doutes?
Non, mais juste préciser que du jeu de rôle grandeur nature, un peu histo comme ça, il y en a dans pas mal de thèmes différents. On s'aperçoit bien souvent que finalement tout ce qui est historique et qui n'est pas complètement fictif, ça reste du XXe siècle. Hein, c'est de la belle époque, ou alors éventuellement un petit peu d'ère victorienne, de l'après-première guerre ou de l'après-seconde guerre. Enfin, il y a beaucoup de jeux comme ça. La dernière question que j'ai envie de te poser, parce que je sais que toi et moi, on cherche ça de plus en plus, est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des thématiques en jeu de rôle histo que tu souhaiterais voir explorer, que tu souhaiterais pourquoi pas toi à l'avenir explorer?
De l'année 20, c'est vraiment quelque chose qui manque, un vrai année 20, mais encore une fois, je veux commencer à écrire avec le décor avant de commencer à faire quoi que ce soit. Et par exemple, il y a une série que j'adore qui est Peaky Blinders, j'adorerais faire quelque chose comme Peaky Blinders, mais il me faut ma ville. Je veux pas faire Peaky Blinders dans une MJC de campagne avec des décors à 3 sous.
Là, t'es exigeant, effectivement.
Non, mais je pense que tout bêtement, dans une ville, moi je pense aux cités du Nord, comme il y a dans les Ch'tis. Oui. Tout bêtement, la fausse ville, là, ça pourrait faire un truc super pour du Peaky Blinders.
D'accord, ok. Christophe, tu avais une question?
Ben justement, peut-être, là, de toute façon, on a donné envie à des gens de découvrir ton GN, donc où est-ce qu'ils le retrouvent, quand est-ce qu'on s'inscrit, etc. Enfin voilà, mais grosso modo, là, alors... l'aspect technique. Non, mais l'aspect technique, c'est ça. On va peut-être aussi parler un petit peu pour les gens qui ont envie de découvrir.
Et tu fais très bien d'amener le sujet. Alors si vous voulez vous inscrire, désolé, il y a déjà plus de place. Non, vas-y, expliquez, Olivier.
Non, c'est complet. En fait, on a majoritairement repris des gens qui étaient sur nos sessions précédentes, surtout que la plupart reprennent leur rôle. Et le peu de rôles supplémentaires qu'il y avait ont déjà été repris.
Il y aura bien sûr des désistements comme à chaque fois, non?
Oui,
j'imagine.
Bon.
Oui, il y a une grande liste d'attente. Inscrivez-vous et priez, effectivement, c'est difficile à avoir.
L'idée de cette chronique-là, c'était pour prendre un peu de recul par rapport au monde du GN, et plutôt qu'uniquement vous décrire un GN, pouvoir en parler un petit peu plus, aller un petit peu plus au fond des choses. En tout cas, moi, je suis très heureux que tu aies pu nous accorder du temps aujourd'hui sur ce projet-là, parce que voilà, c'est extrêmement enrichissant, et je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses.
Clairement, merci Olivier de ton temps et d'être venu partager ça. Merci à tous pour cette 12e émission. Merci Oaz, merci Christophe, merci Kétrus, Floette et merci Olivier pour ton temps encore une fois. N'oubliez pas que la Ligue des joueurs ordinaires est une émission proposée par Radio Kawa. Donc vous pouvez nous retrouver sur Radio Kawa dans la section VRAC. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes évidemment avec sur tous les bons sites de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à regarder les épisodes épisode qu'il y a sur Radio Kawa, sur tous les autres podcasts. Et puis, n'hésitez pas à faire vos retours sur commentaires, sur Twitter, à la Ligue des Joueurs, et sur Facebook, qui n'est pas mort et qui est là et qu'on aime beaucoup. Je regarde Kétris et Floette. Voilà, bah, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour parler de jeux. Et ciao, ciao, ciao tout le monde. Bye.
Salut
bye
tout le monde.
Salut.
Alors justement, c'est donc d'un point de vue organisateur, ça, voilà, cet aspect gestion de l'écriture historique, ça implique un certain nombre d'obligations et pas mal de rigueur. Mais finalement, ça développe aussi un certain nombre d'attentes vis-à-vis des joueurs. Et donc, j'ai envie de te demander quels sont finalement les écueils que vous, organisateurs de ce type de jeu, vous rencontrez régulièrement chez les joueurs, que ce soit dans la préparation de leur rôle ou dans leur implication tout simplement le jour J.
La refaire.
qui avait compris la question? On va la recouper. Okay, couper.
Il faut regarder du porno, mais il faut le regarder intelligemment.
Ce genre de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence. Allo Central avec Alex le serveur et Luxbox,
c'est génial.
Et c'est sur Radio Kawa.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de Doujin Entai ni Zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.